Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Un jour dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons à nouveau plonger dans l'histoire du Premier Empire avec un épisode à part dans son épopée, celui des 100 jours. À part dans la mesure où la restauration impériale survient après un intermède de presque un an, une année pendant laquelle l'ombre de Napoléon ne cesse d'exercer sa domination, que ce soit sur le Congrès de Vienne, chargé de redessiner l'Europe, ou sur la première restauration gênée par la propagande impériale. Épisode à part aussi par les circonstances du retour de l'empereur, par la rapidité de sa chute, et enfin épisode à part car réécrit par Napoléon à Sainte-Hélène. Pour la première fois, en effet, l'histoire sera dictée par le vaincu. Bref, cet épisode des 100 jours méritait que l'historien y porte son regard, quitte à mettre à mal certains des mythes fondateurs de la légende napoléonienne. Et c'est ce que nous propose Thierry Lenz dans le quatrième tome de son Histoire du Premier Empire. Thierry Lenz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à nouveau au micro de Canal Académie.
C'est toujours un plaisir.
Est-ce vraiment nécessaire de vous présenter ? Je vais quand même rappeler que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le consulat et l'Empire. Vous êtes également directeur de la Fondation Napoléon. Et vous venez donc de publier chez Fayard le quatrième et dernier tome de votre nouvelle Histoire du Premier Empire. Je dis dernier, mais peut-être pas.
Oui, c'est le dernier.
Votre nouvelle histoire du Premier Empire ne devait-elle pas comporter que 3 tomes ? Pourquoi avez-vous finalement décidé de consacrer un dernier tome aux 100 jours ?
C'est une histoire, cette nouvelle histoire du Premier Empire. J'ai commencé à y travailler il y a une douzaine d'années à peu près. Et à l'époque, avec Claude Durand et Denis Maraval de Fayard, nous étions convenus que ce ne serait pas une histoire de Napoléon. Ce ne serait pas simplement l'histoire de l'Empire napoléonien, mais ce serait l'histoire de ce que nous avions appelé, et que nous appelons toujours, le système napoléonien. C'est-à-dire à la fois ce que Napoléon a fait, mais ce qui a été fait par ce qu'il a fait, c'est-à-dire l'impact que tout cela a eu sur l'Europe, sur la géopolitique européenne, sur l'organisation du continent. Et donc, nous étions partis sur l'idée que les 100 jours étaient un appendice, ce qu'ils sont effectivement, qui ne devait être traité, je dirais, qu'en fin de troisième volume, disons les choses comme ça. Et puis, pour des raisons d'ailleurs d'abord techniques, c'est que le troisième volume en question était un gros volume, qui faisait pas loin de 1000 pages. On a décidé de reporter l'étude des 100 jours après. Et puis, je me suis rendu compte aussi, au fur et à mesure que je travaillais sur le Premier Empire, que l'épisode des 100 jours était bien sûr un épisode à part dans l'histoire du système napoléonien, mais que le fantôme de ce système était partout présent. Pendant, que ce soit pendant la première restauration à Paris, que ce soit à Vienne, évidemment, pendant le Congrès, et que ce soit aussi à l'île d'Elbe, où Napoléon avait été exilé. Donc, partant de là, je me suis dit, on pourrait peut-être raconter les 100 jours, parce que c'est d'abord un récit, mais aussi dans cette perspective-là, c'est-à-dire en quoi ces 100 jours interviennent-ils, en l'espèce dans la fin du système napoléonien, mais malgré tout dans l'histoire de ce système napoléonien. Et c'est donc pourquoi j'ai infligé au lecteur ce quatrième volume.
Alors, on va commencer par le Congrès de Vienne, puisque vous venez de le dire, Napoléon, finalement, est le héros, entre guillemets, du Congrès de Vienne.
Oui, il est le héros indirectement parce que les puissances réunies à Vienne reconstruisent ou retricotent l'Europe après l'épisode révolutionnaire et impérial. Et puis, il y est présent très directement, sans y être personnellement, parce qu'on parle beaucoup de lui à ce moment-là. Le Congrès de Vienne a une très très mauvaise image dans l'histoire de France. Tous les ouvrages français sur le Congrès de Vienne tournent autour de deux idées. La première, c'est la trahison de Talleyrand. Alors ça, c'est la grande tarte à la crème. Et puis la deuxième idée, c'est que l'Europe s'est entièrement réorganisée contre la France. Alors, les deux idées sont évidemment discutables. Bon, la première, vous savez que depuis les travaux d'Emmanuel de Varesquiel, on revisite la personnalité de Talleyrand de façon extrêmement modérée, y compris chez les historiens napoléoniens. La deuxième idée, c'est le Congrès qui se serait uniquement tenu contre la France. C'est une idée discutable. Évidemment, le Congrès a beaucoup travaillé à enserrer la France dans une série de puissances qui pourraient contrebalancer la puissance française. C'est vrai avec le Royaume de Hollande, qui fait donc la Hollande, la Belgique et, pour le souverain de Hollande, le Luxembourg à titre personnel. C'est vrai aussi sur le renforcement des puissances allemandes à la frontière et puis sur la réorganisation de l'Italie, disons, autour d'une domination autrichienne. Tout ça est vrai. Mais ça n'est pas que ça, le congrès de Vienne. Le congrès de Vienne, c'est d'abord une réunion diplomatique comme il n'y en a jamais eu, comme il n'y en aura quasiment plus. Enfin, on peut estimer que le congrès de Versailles a lui aussi été un congrès de cette ampleur. Mais imaginez qu'à Vienne, toutes les puissances européennes sont présentes, c'est-à-dire toutes sans exception, que sont en plus présents ceux qui viennent de perdre leur couronne après la chute de l'Empire, sont présents des groupes de pression, des lobbyistes, comme on dirait aujourd'hui, qui représentent des centaines de délégations. Et pendant 9 mois, tout ce joli monde, si je puis dire, va essayer de reconstruire une Europe qui tiennent debout, parce que les 25 ans qui viennent de passer ont quand même profondément rebattu les cartes en Europe, quand bien même, c'est en tout cas la thèse que je soutiens, elles n'ont pas fondamentalement modifié les forces profondes de la géopolitique européenne, que Napoléon et la Révolution n'ont déplacé ni les fleuves, ni les montagnes, ni les populations, ni les traditions, les craintes diplomatiques traditionnelles. Donc, c'est un retour, je dirais, enfin un retour, la continuation de la prise en compte des forces profondes. Et puis, dernière chose qu'il faut dire sur le Congrès de Vienne, c'est que c'est le Congrès de Vienne qui crée le droit international public moderne. C'est-à-dire que, en dehors des petits marchandages d'âmes et des marchandages territoriaux, on crée une véritable œuvre d'organisation de la diplomatie qui fait qu'on ne pourra plus, à partir du Congrès de Vienne, faire à peu près n'importe quoi en matière de politique étrangère. Et pour terminer, le Congrès de Vienne assure tout de même pratiquement un siècle de paix à l'Europe. Alors, il y a des guerres régionales, des guerres bilatérales, si l'on veut, mais il n'y a plus, jusqu'en 1914, ces grandes conflagrations qui mettaient l'Europe à feu et à sang, la guerre de 30 ans, les guerres de la Révolution et de l'Empire, la guerre de 7 ans, enfin, tout cela est mis entre parenthèses pendant un siècle. Alors, évidemment, on nous dira, et on nous dira surtout du côté gauche, que le Congrès a aussi mis sous les ténoirs les nationalités, l'envie de liberté des peuples, et ainsi de suite. Tout cela est vrai. Mais rappelons-nous quand même que l'époque à laquelle se situe ce Congrès n'est pas encore cette époque-là. C'est l'époque où ce sont encore les souverains, les dynasties qui font l'Europe.
Alors, le Congrès de Vienne s'ouvre en novembre 1814 pour une durée qui devait être pas si long,
oui, enfin, oui.
Finalement, ça sera beaucoup plus long, entre autres parce qu'une nouvelle va semer un peu la panique au sein du Congrès. C'est le 7 mars 1815, on apprend que Napoléon a quitté l'île d'Elbe.
Oui, le Congrès, effectivement, devait durer peu de temps. Au départ, d'ailleurs, les vainqueurs de Napoléon s'étaient dit « nous allons régler les problèmes, puis ensuite, on présentera tout ça à un congrès international ». Et en réalité, il y a eu plusieurs conférences préparatoires qui ont toutes échoué, parce que là, comme je le disais tout à l'heure, les forces profondes avaient repris le dessus. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à Vienne devant une quadrature du cercle, comment faire travailler ensemble 150 États et des centaines de délégations. Alors, le Congrès s'est organisé autour d'une commission centrale, les 4 principales puissances, les vainqueurs de Napoléon, et des petites commissions. On a réglé beaucoup de problèmes, on a failli même reprendre la guerre au mois de février, et puis le 7 mars, comme vous le disiez, on apprend que Napoléon a quitté l'île d'Elbe, et je dirais que pendant quelques jours, en plus, on ne sait pas où il va. Donc, il y a une espèce de panique qui prend le Congrès, et c'est finalement, toujours, comme d'habitude, le prince de Talleyrand qui va trouver la solution, et qui trouve la solution en obtenant immédiatement de la part des puissances la réaffirmation de l'Union, non pas contre la France, évidemment, et c'est en cela que Talleyrand n'a trahi personne. Ça n'est pas contre la France que se liguent les puissances européennes, mais c'est nommément contre Napoléon, qui est mis hors la loi par le Congrès, qui fait la promesse, en quelque sorte, de l'empêcher de régner à nouveau. Au moment où on vote cet accord, qui est du 23 mars 1815, on ignore encore que Napoléon est rentré à Paris, mais bon, on se dit, au cas où son entreprise criminelle, dit-on, viendrait à réussir, on l'empêchera de régner. Et effectivement, à la fois, ça va retarder la fin du Congrès, car le Congrès devait se terminer à peu près dans ces eaux-là, à la mi-mars, mais ça va aussi, d'une part, réunir à nouveau les alliés contre Napoléon, et puis surtout, débloquer tous les dossiers qui étaient en souffrance au Congrès de Vienne. Et à partir de ce moment-là, on se met à rédiger le fameux acte final, qui va être finalement signé le 9 juin 1815, c'est-à-dire, au fond, pendant ce temps-là à Paris, si l'on peut dire, c'était quelques jours avant la bataille de Waterloo.
Alors, avant de passer par ce qui se passait à Paris à ce moment-là, on va faire un petit retour en arrière et vous consacrer des pages très intéressantes à l'expérience, je dirais, de Napoléon, souverain de l'île d'Elbe, puisqu'on va passer rapidement sur son départ, qui d'ailleurs le marqua pourtant, lorsqu'il arrive dans le sud de la France, il est hué, on le traite de gueux, de tyran. Bon bref, finalement il arrive à l'île d'Elbe. Vous décrivez un homme défait, il reprend vite du poil de la bête.
Oui, oui. D'abord, pour tous ceux qui connaissent l'île d'Elbe, c'est évidemment l'endroit idéal pour reprendre des forces. Mais bon, c'est évidemment pas pour ça que Napoléon va en reprendre. D'abord, on lui laisse la souveraineté. Il est officiellement, aux yeux de l'Europe, l'empereur Napoléon, souverain de l'île d'Elbe. C'est un paradoxe absolument terrible, puisque cet empereur règne sur un territoire qui est grand comme un arrondissement français. C'était d'ailleurs, à l'époque de l'Empire français, c'était une sous-préfecture. C'est un territoire qui est donc petit, qui est évidemment entouré par la mer, puisque c'est une île.
Vous parlez du confetti napoléonien.
Voilà, c'est un confetti. Il a en plus très peu de moyens. C'est une île qui a peu de ressources. Il y a une mine de fer, si vous voulez. On a beaucoup glosé sur la mine de fer de l'île d'Elbe, mais elle assure des revenus qui permettent à peine à l'État elbeois de se maintenir. Napoléon va se mettre au travail, alors qu'il avait été quand même extrêmement marqué par la défaite de 1814. Il se met au travail, il reprend, comme vous disiez, un peu de poil de la bête, il se requinque, il se refait une santé. Alors, il administre cette île. Il y a toute une légende autour de l'île d'Elbe, y compris d'ailleurs entretenue par les Elbois eux-mêmes en ce moment. C'est de dire que Napoléon a transformé l'île, en fait, etc. Quand on fait un petit peu le bilan, il a bien sûr fait élargir quelques chemins, il a fait détruire quelques maisons à Portoferraio, il a pavé les rues. Mais je veux dire, comme je le dis dans le livre, c'est quand même pas les travaux d'Hercule. Et puis surtout, c'est très limité parce qu'il a très peu de ressources. Dans le traité qui lui accordait la souveraineté de l'île d'Elbe, il était convenu que Louis XVIII lui verserait une pension de 2 millions. Avec ces 2 millions, Napoléon aurait peut-être pu tenir à l'île d'Elbe à condition de faire beaucoup, beaucoup d'économies, et il en a déjà fait beaucoup. En réalité, dès la première année, Napoléon, qui s'y connaît en finance, a compris que l'expérience n'est pas viable. On ne peut pas maintenir le train de vie qu'il s'accorde à l'île d'Elbe. Il reconstitue la maison de l'empereur. Enfin, ça n'est pas un état modeste. L'état elbois, c'est un état encore extrêmement brillant. Et Napoléon le veut ainsi. Donc là, il se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de s'en sortir en y restant. Louis XVIII n'a pas l'intention de verser la pension des 2 millions. Elle n'est jamais inscrite au budget français. D'ailleurs, les alliés à Vienne s'en inquiètent. Ils le font remarquer à Louis XVIII qui fait de fausses promesses. Et puis surtout, Napoléon est inquiété aussi par une nouvelle qui lui arrive dès le mois de novembre 1814, donc assez tôt. Le Congrès discute de la possibilité de l'éloigner des côtes italiennes. L'île d'Elbe se trouve à 12-13 km des côtes. Le Congrès pense que c'est trop près. Et effectivement, l'avenir prouvera que c'est près. Et on commence à parler d'une arrestation de Napoléon et de son transfert aux Açores, un peu. On parle un peu des Açores, mais surtout, évidemment, on commence à parler de cette île de Sainte-Hélène. Et Napoléon l'apprend probablement avant tout le monde, puisqu'il avait des espions au Congrès de Vienne. Et à partir de ce moment-là, d'abord, il place l'île en état d'alerte permanente. Donc, c'est une île qui est en état de guerre. Et puis, il commence à penser au retour, en se disant que ce retour est possible.
Donc, c'est ce que nous allons voir dans une seconde partie, après une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.
Rencontrer l'architecte Jacques Rougerie de l'Académie des Beaux-Arts. Inspiré par la mer, il est un architecte du monde sous-marin qui se définit lui-même comme un mérien. L'eau, les océans, mais aussi l'espace, les galaxies, la bionique nourrissent des rêves qu'il concrétise. Rencontre avec un bâtisseur, un explorateur du 21e siècle. Écoutez également, dans une deuxième émission, la remise de son épée d'académicien par le ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo. Deux émissions en habit vert à télécharger librement sur le site de Canal Académie.
Vous êtes toujours à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes en compagnie de Thierry Lenz, qui vient de publier chez Fayard le 4e tome de sa nouvelle histoire du Premier Empire, consacrée aux 100 jours. Nous avons quitté un Napoléon prêt à débarquer en France. Il faut voir maintenant dans quelle France il va débarquer. Et là aussi, on va s'intéresser un petit peu au règne de Louis XVIII, à son installation, parce que finalement, Napoléon arrive dans une France qui a complètement changé et il n'en a pas tout de suite conscience. Et vous dites d'ailleurs au sujet du règne de Louis XVIII que ça aurait pu marcher.
Oui, bien sûr, ça aurait dû marcher. On dit toujours, par exemple, pour expliquer l'échec des 100 jours, que Napoléon n'a pas eu le temps. Eh bien, on peut appliquer la même remarque à Louis XVIII. Louis XVIII arrive en France, rappelons quand même les circonstances, dans une France qui est exsangue. Napoléon vient de perdre la guerre, la France est occupée, les alliés sont à Paris, on parle d'indemnité de guerre, on parle d'occupation du territoire. Louis XVIII arrive avec ses vieilles idées. C'est un homme qui a quitté la France en 1789, donc il a vraiment perdu le contact avec la France. Naturellement, il aurait tendance à redevenir un monarque d'Ancien Régime. Et puis, dans cet énorme corps à moitié paralysé, avec une voix extrêmement stridente mais forte, qui surprend tout le monde au moment où il rentre, Louis XVIII, il a une intelligence politique qui ne lui a pas toujours été reconnue. Bon, les études sont maintenant beaucoup plus équilibrées à son sujet, mais il a une intelligence politique qui consiste à aller contre ses propres idées et de convaincre son entourage qu'il n'y aura pas de revanche, qu'on va appliquer ce qu'il appelle une politique de pardon et d'oubli. Et effectivement, Louis XVIII n'épure pas les administrations. Louis XVIII ne fait pas poursuivre à ce moment-là les régicides. Louis XVIII remet en ordre les finances. Il confie ça au baron Louis, qui est son ministre des Finances à ce moment-là. Et il se contente de régner. Il ne gouverne pas directement. Il est un roi, en quelque sorte, pré-parlementaire. Il donne à la France une charte pré-parlementaire avec deux chambres qui peuvent questionner les ministres et ainsi de suite. Donc on voit bien un homme qui gouverne contre sa nature, enfin agit contre sa nature et agit presque contre son camp à certains moments, ce qui crée beaucoup de friction, beaucoup d'amertume de la part de ceux qui sont rentrés dans ses bagages, mais qui au fond fonctionne assez bien et rassure un petit peu la France et rassure surtout l'Europe, parce que Louis XVIII, dès le début, dit que la France n'est puissante que dans ses frontières traditionnelles, c'est-à-dire qu'il admet très volontiers le dépeçage complet de l'Empire napoléonien. Alors, malheureusement, Louis XVIII, parce qu'il ne s'est pas intéressé à tout et parce qu'il est aussi un homme de l'Ancien Régime, va commettre un certain nombre d'erreurs psychologiques qui vont lui coûter cher. La première, c'est de réinstaller à tous les étages de l'État la religion catholique. Alors, les révolutionnaires n'avaient pas totalement déchristianisé la France, mais rappelons quand même que le régime napoléonien avait totalement déconfessionnalisé l'État. Ce n'était pas de la laïcité, mais c'était la religion n'a rien à voir au niveau de l'État. Louis XVIII, malheureusement, la réintègre. Alors lui-même, il est totalement indifférent en matière de religion. C'est absolument pas... On le dit roi très chrétien, mais bon, c'est uniquement pour son titre diplomatique. Donc il tolère la réinstallation à tous les étages de la religion, les cérémonies expiatoires pour la mort de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de la princesse de Lamballe, des Suisses tués aux Tuileries, etc. Ça, je dirais que ça lui donne une assez mauvaise image dans l'opinion, mais ça n'est pas décisif. Sa grande erreur, c'est d'avoir laissé les technocrates décider à sa place du sort de l'armée. Évidemment, le baron Louis a besoin de faire des économies. La France est au bord de la ruine et il prend donc des mesures d'économie qu'on dirait aujourd'hui technocratiques, c'est-à-dire qu'il fait des coupes sombres et il les fait sans aucune psychologie. Et c'est ainsi qu'on s'attaque à l'armée et qu'on met les officiers en demi-solde et puis qu'on renvoie dans leur foyer à peu près la moitié des effectifs, ce qui fait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont répandre leur mécontentement un petit peu dans la France entière. Je dirais que quelques années plus tard, tout ça aurait été oublié. Ça aurait été la crise du début du règne de Louis XVIII, puis on aurait oublié tout ça. Mais malheureusement, il y a l'autre acteur, celui de l'île d'Elbe qui a envie de rentrer et qui a compris, et je pense qu'on ne peut pas une seconde croire que Napoléon pensait que la France l'attendait. Napoléon savait que l'armée l'attendait. Et c'est en jouant sur cette erreur psychologique, technocratique du gouvernement de Louis XVIII qu'il a pu organiser son retour en France.
Donc, retour qui se produit en mars 1815. Là aussi, on va peut-être passer rapidement sur la marche vers Paris, même si dans toute cette histoire, vous insistez sur le fait qu'on a de nombreuses idées reçues liées à la réécriture de Napoléon à Sainte-Hélène.
Oui.
La route vers Paris se passe bien. L'arrivée à Paris est beaucoup plus délicate.
Oui. D'abord, la route de Paris, Napoléon choisit une route qui lui est favorable.
Inattendue.
D'abord, tout le monde l'attendait en Italie. Il débarque en France. Une fois qu'il débarque en France, et au lieu de remonter la vallée du Rhône, ce qui aurait été la ligne directe, donc vallée du Rhône très peuplée, assez royaliste dans la partie provençale, il choisit de traverser les Alpes en quelque sorte et de remonter directement vers Grenoble. Alors pourquoi Grenoble ? Parce que Grenoble est une ville bonapartiste, ou en tout cas libéraux-bonapartiste, comme on dira plus tard, dans laquelle il y a une grande agitation qui est menée notamment par Champollion Figeac, donc le frère de Champollion. Il y a là-bas le général Labédoyère qui est très bonapartiste. Bref, tout est en place pour que Grenoble bascule. Et Grenoble bascule évidemment très très facilement. Ensuite, Napoléon se rend à Lyon. Sur la route, il a fait des proclamations qu'il va regretter, d'ailleurs, extrêmement jacobines. En fait, il ranime un peu la Révolution. Mais si l'on veut, quand on regarde bien les témoignages, les rapports et ainsi de suite, ce qui est frappant, c'est que le succès populaire du retour de l'île d'Elbe n'est vrai que sur la route de Napoléon. C'est-à-dire que dans le reste du pays, il n'y a aucune manifestation de joie. D'abord, c'est très difficile, l'information ne se transmet pas très vite. Mais il n'y a pas cette espèce de grand mouvement populaire qu'on répète depuis 200 ans à force d'études. Et vous le disiez, l'entrée à Paris, qui est toujours présentée comme... Alors donc, on voit un Louis XVIII qui, le 20 mars au matin, s'en va au flambeau, etc., comme un voleur, si l'on peut dire. Et puis, le soir même, Napoléon entre aux Tuileries sous les vivats de la foule. En réalité, tous les témoignages, mais alors tous, y compris des compagnons de Napoléon, montrent qu'il y avait quasiment personne aux Tuileries. Il y avait quelques centaines de personnes qui, parce qu'on pensait que Napoléon arriverait le lendemain matin. Alors, je ne sais pas ce qui serait passé le lendemain matin, mais la réalité est celle-ci, c'est que Napoléon arrive dans un palais des Tuileries où, bien sûr, les dignitaires de l'Empire ont repris leur place, où on a repris la livrée impériale et ainsi de suite, mais dans la cour, il n'y a pas grand monde. Et je dirais que c'est symboliquement, c'est un peu aussi la fin de cette aventure du retour de l'île d'Elbe, parce que à partir du lendemain matin, les ennuis commencent pour Napoléon. Et il va s'en rendre compte très très vite. Et au fond, tout ça, ça va durer 94 jours et pas 100. Et ça va aller très très vite.
94 jours qui vont être marqués par des échecs quelque part. On a l'impression vraiment, vous le dites, que Napoléon a perdu la main. Il va devoir se mouvoir en souverain constitutionnel.
Oui, oui.
Ce qui ne correspond pas à sa personnalité.
Pas du tout. Ça, c'est véritablement, je crois, le point central de ce qui se passe pendant les 100 jours. Parce qu'évidemment, les 100 jours, on les focalise beaucoup sur la défaite de Waterloo. Et on a raison, hein, c'est évidemment un événement très important. Mais on oublie un petit peu l'échec général de reprise en main de Napoléon. Et c'est d'ailleurs, cet échec explique l'offensive en Belgique pour aller chercher une victoire. C'est un échec, d'abord, sur le plan de la psychologie de l'empereur lui-même. C'est-à-dire qu'il a été, on le disait tout à l'heure, requinqué à l'île d'Elbe. Le retour de l'île d'Elbe a été quelque chose de formidable. Enfin, on voit bien, ça, c'était très enthousiasmant. Et puis, tout à coup, au moment où il arrive à Paris, il s'aperçoit que le monde a changé, tout simplement. Le monde a changé en un an. Et il a changé, au fond, grâce à Louis XVIII. Louis XVIII a instauré une constitution libérale, enfin une charte assez libérale. Les oppositions ont eu le droit de s'exprimer. Louis XVIII avait proclamé la liberté totale de la presse, ce qui fait que Napoléon se trouve devant une société que lui n'a jamais connue. Lui était plutôt, c'était pas un dictateur, c'était un monarque un peu autoritaire, même beaucoup à certains endroits, qui avait des chambres qui étaient surtout des chambres de travail et pas des chambres politiques, et qui se retrouve face à une sorte d'agitation que lui-même ne comprend pas. Et il le dit d'ailleurs, les Bourbons ont gâté ma France. En fait, les Bourbons ont permis cette évolution qui va mener au libéralisme puis au parlementarisme dans les années 1870. Et donc il échoue à reprendre en main l'administration, parce que la France n'a pas deux élites administratives, elle en a qu'une, et bon, comment épurer quand on n'a pas sous la main des gens fidèles. Il échoue politiquement. Il y a 3 élections pendant les 100 jours, les élections législatives, les municipales et le plébiscite. Il les perd tous les 3. Il perd les législatives sur les libéraux qui les remportent. Les municipales, car on fait voter pour la première fois au suffrage universel dans les municipalités de moins de 5000 habitants. Les maires royalistes sont quasiment tous reconduits. Et puis le plébiscite, qui est l'instrument napoléonien par excellence, est un échec total, puisque même si le oui l'emporte à 99,9%, il y a moins de 20% des électeurs qui se sont déplacés. Et encore, on a fait, comme d'habitude, voter l'armée collectivement et ainsi de suite, donc ce qui encore gonfle les chiffres. Donc, Napoléon se trouve devant une France qu'il ne comprend pas, ou mal, deux, qu'il ne maîtrise pas. Et pendant ce temps-là, l'Europe dit « nous, on va vous faire la guerre, il y a 1 million d'hommes qui marchent sur la France ». Eh bien, Napoléon va jouer, comme il a toujours fait dans sa vie politique, il va jouer un coup de poker. Et le coup de poker, c'est, on le sait par des témoignages de son entourage, il leur dit « mais vous allez voir, quand j'aurai gagné ma première bataille, vous allez voir tous ces députés, etc. » parce que les députés lui mènent la vie dure, « vous allez voir, je vais m'en occuper, en quelque sorte, au retour. » Et donc, il joue le coup de poker en cherchant une grande victoire extérieure qui, d'une part, lui permettra de négocier avec la coalition, c'est ce qu'il croit, hein, et d'autre part, lui permettra de reprendre la France en main, et notamment la Chambre des représentants, où déjà les Lafayette et quelques autres lui mènent la vie dure.
C'est pas ce qui va se passer. La grande victoire va s'avérer une grande défaite.
Oui, oui. On oublie que la campagne de Waterloo, ça dure 4 jours, hein, donc c'est très, très rapide. D'abord, Napoléon consacre pratiquement tout son temps à s'occuper de la reconstitution de l'armée. Il y réussit globalement, hein. Il réussit à monter une armée, c'est-à-dire un nombre d'hommes très important. Mais un nombre d'hommes, ça n'est pas une armée. Il faut encore l'équiper, il faut l'entraîner, il faut qu'elle obéisse un peu aux ordres. Bon, disons, grosso modo, il réussit à reconstituer un corps de bataille dont il prend la tête, ce qu'on appelle l'armée du Nord, et il décide d'attaquer les ennemis qui sont le plus proches de lui, et j'irai au fond les ennemis qu'il craint le moins, c'est-à-dire l'armée britannique et les Prussiens. Alors, évidemment, tout ça se termine à Waterloo, mais je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire. Waterloo, c'est la fin de l'affaire, en quelque sorte, mais il faut la replacer dans le contexte stratégique de ces 4 jours, qui montre qu'au fond, les Alliés ont très bien compris comment Napoléon faisait la guerre, et ils ont exactement fait ce qu'il fallait pour gagner cette guerre. Napoléon, alors pour simplifier, Napoléon a l'intention de reproduire ce qu'il a fait en Italie en 1796, ce qu'on appelle une manœuvre sur position centrale, ça, ce sont les spécialistes qui appellent ça comme ça, qui consiste à dire « je sépare mes ennemis et je les bats les uns après les autres ». Et c'est ce qu'il va essayer de faire pendant cette campagne de 4 jours. Il s'insère entre l'armée prussienne de Blücher et l'armée anglaise de Wellington. Il bat les Prussiens le deuxième jour et se dit « maintenant je vais me tourner vers les Anglais puisque les Prussiens, comme c'est la loi de la guerre, ils vont se replier sur leur ligne de communication, c'est-à-dire qu'ils vont se replier vers l'Allemagne ». Ce que Napoléon ignore, et ce qu'il va ignorer jusqu'à l'après-midi de Waterloo, c'est que les conférences qui ont eu lieu entre les Prussiens et les Anglais ont abouti à la promesse de ne jamais se séparer. Parce que Blücher, qui a connu la campagne de France de 1814, sait bien, parce qu'il a été vaincu à plusieurs reprises, que quand on se sépare face à Napoléon, que Napoléon n'est jamais aussi fort que quand il est en infériorité numérique. Parce que c'est là qu'il est mobile, c'est là qu'il joue avec son imagination militaire. Et donc le Prussien réussit à convaincre Wellington de promettre de ne jamais se séparer. Alors on sait depuis que Wellington n'était pas prêt à tenir sa promesse, mais il se trouve que c'est les Prussiens qui ont eu à la tenir et qu'eux l'ont tenue. C'est-à-dire que dans la stratégie de cette campagne, il faut bien voir ça, c'est que Napoléon a commis une erreur d'interprétation au début de la campagne, qui est de se dire, comme il est normal, chacun va se replier sur ses lignes de communication, les Prussiens vers l'Allemagne, les Anglais vers la mer. En fait, il se trouve face à des gens qui ont décidé de surtout ne pas faire ça.
Et donc, tout ça aboutit au désastre de Waterloo le 18 juin.
Un dimanche, le dimanche de Waterloo, comme le dimanche de Bouville, de Duby, mais avec des conséquences beaucoup plus graves, évidemment. Napoléon affronte Wellington. Alors, c'est une bataille qui a été 100 fois décrite. Donc, je me suis livré, moi, j'ai essayé de la simplifier pour qu'on la comprenne un peu, parce qu'à force de débat, on n'y comprenait plus rien. En réalité, c'est une bataille que Wellington a voulu défensive. C'est d'abord une bataille qui ne pouvait avoir lieu que là. C'est le seul terrain où pouvait avoir lieu une bataille avant Bruxelles. Donc, c'est pas du tout ni étonnant, c'est pas un hasard. On s'est battu toujours dans la région de Waterloo depuis des siècles. Donc, on se retrouve là face à face. Napoléon pense que les Prussiens se replient sur l'Allemagne. Il a détaché le fameux corps de Grouchy, dont on parle beaucoup, pour les contenir, pour les accompagner sur leur voie de communication. Et lui se dit, maintenant, je bats les Anglais qui, eux, vont prendre leur voie de communication, partir vers Anvers. J'entrerai dans Bruxelles, ça sera un grand succès. Et à ce moment-là, on acceptera de négocier avec moi. En réalité, il se passe ce que les alliés ont prévu, c'est que Blücher, au lieu de se retirer vers l'Allemagne, lui, il marche vers les Anglais. Grouchy, qui ne sait pas où se trouvent les Prussiens parce qu'il est parti trop tard, c'est là aussi, vous savez, on dit toujours, si Grouchy avait rejoint le champ de bataille, Grouchy avait 33 000 hommes avec lui, même s'il avait décidé de marcher vers Waterloo au matin du 18 juin, il n'y serait arrivé que quand il était trop tard. Or, Grouchy n'a pas su immédiatement que les Prussiens marchaient sur Waterloo, et c'est l'échec total du renseignement napoléonien à ce moment-là. Donc, c'est vrai que Napoléon se heurte à Wellington, c'est un choc extrêmement violent. Wellington défend, Napoléon attaque, et pendant la plus grande partie de la journée, c'est un choc franco-anglais, jusqu'au moment où, en milieu d'après-midi, ça n'est pas un petit corps prussien, comme Napoléon l'a cru, qui arrive sur le champ de bataille, mais c'est toute l'armée prussienne. Et qui plus est, cette armée arrive à s'insérer à l'arrière du dispositif français. Alors les Français n'avaient plus de réserve, ils s'étaient battus, c'est vrai, comme des lions pendant toute la journée, de façon un petit peu brouillonne, il faut quand même bien le dire. Le maréchal Ney lance des charges de cavalerie que Napoléon ne rappelle pas au plus mauvais moment. Napoléon engage ses réserves un petit peu à contre-temps, ce qui fait qu'au moment où les Prussiens arrivent, mais il n'y a plus personne pour s'opposer à eux. Et c'est une panique générale de l'armée française. On a des témoignages de soldats prussiens ou de soldats anglais qui décrivent cette panique. C'est-à-dire que les hommes, le champ de bataille de Waterloo, c'est 4 km de large. On se bat à pratiquement 200 000 sur 4 km. Donc vous voyez que ça fait du monde. Et quand les Français quand les Français, pris de panique, quittent le champ de bataille, il y a une bousculade épouvantable. Épouvantable. D'ailleurs, Napoléon lui-même manque d'être pris à ce moment-là parce que ses voitures n'arrivent pas à passer un pont à Genappe, qui est un petit pont qui fait 3 mètres, 4 mètres de large, où il y a 100 000 personnes qui essayent de passer en même temps. Donc ça fait une petite bousculade. Donc c'est une panique énorme qui est évidemment effacée pour la légende par la résistance de deux bataillons de la garde impériale, qui effectivement, c'est un fait avéré. Mais je fais juste remarquer que tout le reste de la garde s'est carapaté, si je puis dire, comme les autres. Et d'ailleurs, les mémoires d'un officier français qui raconte cette panique et qui dit à un moment « tout le monde fuit ». Et puis, à la ligne d'en dessous, il dit « je fais de même ». Ce qui montre bien que même ceux qui auraient dû se montrer un peu légendaires sont obligés d'admettre que c'est une fuite. Hein. Victor Hugo l'a appelé la fuite des géants et le mot est assez exact.
Donc, nous sommes le 18 juin 1815. Mais autre déconvenu qui attend Napoléon, au-delà de la perte de la bataille militaire, il va être totalement abandonné par les chambres.
Oui. Alors, quand on suit trop Napoléon pendant l'histoire de l'Empire, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et pendant les 4 jours de la campagne, en réalité, les chambres ont joué, on pourrait dire, contre l'intérêt national, oui, parce qu'elles ont passé leur temps à mettre des bâtons dans les roues au gouvernement impérial, voulant absolument passer à l'ordre du jour de voter une nouvelle constitution alors qu'on était quand même en guerre extérieure. Et évidemment, au sein du gouvernement impérial, il y a un homme qui a joué ce jeu-là, qui est Fouché. Parce que lui, Fouché, a compris tout de suite que les 100 jours, enfin que l'aventure napoléonienne ne fonctionnerait pas. Et dès le 21 mars 1815, il dit à son entourage, le problème n'est pas de soutenir ou de ne pas soutenir Napoléon, c'est de préparer la suite. Donc lui, il attise un petit peu cette opposition des chambres. Et lorsque Napoléon revient exténué au matin du 21 juin, il a passé 2 jours dans ses voitures, il est abasourdi par la défaite, car la défaite de Waterloo, c'est un vrai désastre. Il rentre à Paris complètement épuisé, il pense qu'il va avoir un peu de répit et que comme il a fait par le passé, il aura le temps de reconstituer tout ça, mais pas du tout. Il se trouve face à une chambre des représentants qui est emmenée par des gens comme Lafayette, il se trouve face à une chambre des représentants qui exige des explications. Et Napoléon n'a pas l'habitude de ça. Et son épuisement physique, cette mauvaise gestion du parlementarisme, fait qu'il va, il va tout céder aux chambres, que les ministres viennent s'expliquer, et ainsi de suite, jusqu'au moment où la chambre lui dit « Mais écoutez, on ne pourra pas traiter avec l'ennemi si vous n'abdiquez pas. » Et tout ça, ça se passe en moins de 24 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit. Il faut voir qu'à ce moment-là, Napoléon est un homme épuisé. C'est un homme moralement très atteint parce que, encore une fois, la défaite de Waterloo, pour un chef militaire, une défaite comme ça, ça ne se digère pas en 48 heures. Et au fond, il ne résiste quasiment pas. Au début de l'après-midi du 22 juin, il rédige son acte d'abdication. Alors, il abdique en faveur de son fils, mais il dit immédiatement à son entourage, de toute façon, c'est avec les Bourbons que vous allez devoir vous débrouiller. Et puis, c'est effectivement ce qui va se passer. Je ferai juste une petite allusion qui va probablement beaucoup agacer les passionnés de Napoléon, mais j'ai vérifié cette légende qui a été d'ailleurs transmise sous le Second Empire, puisque Napoléon III s'appelle Napoléon III parce qu'on disait Napoléon II a été proclamé empereur par les chambres. Alors, je suis allé voir les débats parlementaire. J'ai évidemment cherché tout ça très précisément. Il s'avère que Napoléon II n'a pas été proclamé empereur par les chambres. C'est-à-dire qu'il n'a été proclamé empereur que par l'acte d'abdication de son père, ce qui est suffisant dans les règles de succession impériale, mais il n'a pas été proclamé empereur par les chambres. C'est peut-être un peu... C'est la preuve que même si on aime bien l'épopée napoléonienne, que si on est... Bah, y a des moments où on est obligé de se rendre à l'évidence. Là, nous avons un gros mensonge de la légende.
Dernière question, Thierry Lenz. L'épisode des 100 jours n'est-il pas indispensable à la légende napoléonienne ?
Il est indispensable à la légende napoléonienne, vous avez raison de le souligner, alors même que c'est une des plus grandes catastrophes qu'ait connue la France jusqu'en mai 40. Occupation pendant 3 ans du territoire, indemnité de guerre, faillite des finances publiques, réduction du territoire, bref, tout est là, mise en quarantaine de la France pendant des décennies au niveau du concert européen, donc on voit bien, c'est un échec. Et pourtant, c'est l'épisode probablement le plus vénéré de l'histoire napoléonienne, à cause du retour, évidemment, et même à cause de Waterloo, qui est devenu, un historien a écrit un livre récemment qui s'appelait « Waterloo, la défaite glorieuse ». Waterloo est devenu un objet historique totalement déconnecté de la réalité historique. C'est-à-dire qu'on y voit une défaite de Napoléon en raison de l'incapacité de Ney à mener le combat, de la bêtise de Grouchy qui ne se rapproche pas du champ de bataille, de l'incapacité de Soult à être un bon chef d'état-major. On dédouane évidemment Napoléon de toutes ces erreurs-là, mais quand vous regardez de près, c'est toutes ces erreurs, elles ont été commises parce que le général en chef les a permises, hein, en quelque sorte. Et vous le signaliez en tout début de cet entretien, pourquoi est-ce comme ça ? C'est parce que d'abord, évidemment, la légende créée par les romantiques, même la légende du libéro-bonapartisme qui se développe après est là, mais c'est aussi parce que Napoléon lui-même a immédiatement écrit sa version des 100 jours et de Waterloo, et que cette version a été publiée d'abord dans le Moniteur le 21 juin 1815, c'est-à-dire qu'il avait déjà rédigé le bulletin en route retour de Waterloo, et c'est cette version-là qu'il développe ensuite à Sainte-Hélène dans les mémoires, car Napoléon, on l'oublie parfois parce que le mémorial, c'est rigolo à lire, enfin, etc., mais Napoléon a dicté ses mémoires à Sainte-Hélène, et il a dicté les premiers mémoires de Napoléon à avoir été publiés, c'est Les 100 jours et Waterloo, enfin Waterloo essentiellement, qui a été publié dès la fin de 1819 par le docteur O'Meara. Le docteur O'Meara a quitté Sainte-Hélène avec le manuscrit caché dans ses bagages et l'a publié en France et en Angleterre immédiatement après son arrivée. Ce qui fait que, alors que les historiens commençaient seulement à essayer d'y voir clair dans cette campagne de 1815, ils ont eu tout de suite la version napoléonienne, en quelque sorte, et elle a servi de matrice à la suite, et encore aujourd'hui. Ce livre est paru il y a quelque temps. Évidemment, il y a déjà des napoléoniens amis qui l'ont lu et qui me disent « Mais comment est-ce possible? Es-tu sûr ?» etc. Mais oui, bien sûr, c'est possible et je suis sûr. Comme je le dis, évidemment, du fait que je suis directeur de la Fondation Napoléon, on s'est parfois imaginé que je ne devais dire que du bien de Napoléon. Il se trouve que ce n'est pas comme ça que ma mission est définie. Je suis là pour faire de l'histoire napoléonienne et il se trouve qu'en étudiant historiquement cet épisode des 100 jours, on s'aperçoit de ce que je viens de vous dire. Et le reste, c'est-à-dire toute cette passion autour des 100 jours, c'est la légende. Mais comme je dis, la légende n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est l'histoire.
Merci infiniment, Thierry Lenz. Je rappelle que votre nouvelle histoire du Premier Empire est disponible en 4 tomes aux éditions Fayard. Au revoir à tous et à toutes.